Voyager à travers le temps et aborder l'histoire de la Côte d'Ivoire, les rapports entre les peuples, les espaces culturels et traditionnels, les relations du pays avec les peuples d'ici et d'ailleurs. Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Coffier-Bois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde. Histoire d'ici.
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous sommes présentement chez le professeur Alou Kwame René pour nous instruire. Le professeur Alou Kwame René est connu, bien connu des auditeurs de la Radio de la Paix. Professeur Alou Kwame René, bonjour.
Bonjour, monsieur.
C'est un réel plaisir de vous retrouver après plusieurs mois.
Oui, c'est vrai.
Je vous retrouve et nous allons faire le travail qu'on a toujours fait, c'est-à-dire apporter à la connaissance des auditeurs et des auditrices l'histoire de notre pays, la Côte d'Ivoire.
Oui.
Et nous avons travaillé longtemps ensemble. Professeur Alou Kwame René, vous allez vous présenter. C'est toujours important de se présenter. Et puis, nous parlerons surtout des années Bona.
Oui, je suis le professeur Alou Kwame René. Je suis historien. Je me suis rendu spécialiste de l'histoire des peuples de civilisation à Caen. Voilà, bon, souvent je le dis, le peuple à Caen le plus connu, c'est le peuple Ashanti. Mais les Akans sont nombreux. Et chacun a quand même sa spécificité. Voilà, chacun a sa spécificité. Et c'est ce qui prouve d'ailleurs que c'est authentique. Par exemple, les clans, les Ashantis ont une façon de les appeler. Les Aladjans, ils ont une façon de les appeler. Les Ébris ont une façon de les appeler. Les Nzema ont une façon de les appeler. Même les sous-groupes Agni que vous voyez là, comme les Afua, etc. Ce sont des noms de matriclans. C'est cela, je me suis rendu plus spécialiste de l'histoire des Akans. Mais en fait, je suis polyvalent. Voilà, en tant qu'historien, je suis polyvalent parce que j'ai fait aussi l'histoire ancienne et médiévale. Voilà, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny.
Oui, mais vous enseignez l'histoire des Akans, comme on le dit. Vous êtes spécialiste, mais en dehors de ça, vous avez abordé tous les sujets de la Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes aujourd'hui avec les Agni Bona. Alors, les Agni Bona, parfois, ils se confondent aux Agni Bini, des fois, ils se confondent aux Brons. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire?
Bon, les Agni Bona, c'est eux qui sont dans l'actuelle zone administrative de Koumfao. Voilà. Alors, parmi ceux qui sont vraiment anciennement implantés, ce sont les populations de Waté. Alors, quelques-uns ont voulu les rattacher au Koulango, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Il ne faut pas faire des rattachements à l'emporte-pièce, je veux dire. Mais j'ai constaté que dans la célébration de la fête des Ignam, qui marque l'année nouvelle, le feu joue un rôle très important chez les gens de Waté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, en fait, ils sont d'un clan qui a pour symbole le feu et le chien. C'est ce clan-là que les Ashanti et les Brons appellent Adjuana Abradé, que les Nzema appellent Ndjoafo, et qui est appelé Ahua chez les Agni. Ils sont parmi les premières populations qui étaient implantées dans cette zone-là. Maintenant, vous avez des populations qui sont venues de différents endroits. Vous avez notamment les Asuadiens, les Amanvounans. Ben, les Dengasa sont venus un peu plus tard. Hein. Les Asuadiens, les Amanvounans, les Samo, etc. Mais d'abord, concernant les Asuadiens et puis les Amanvounans, ceux-là, ils sont partis de l'Ebrosa. Quand l'Ebrosa a perdu la guerre face à l'Ashanti en 1721, moi j'ai ma chronologie que je tiens grâce aux sources hollandaises. Parce que les marchands hollandais s'informaient sur ce qui se passait à l'intérieur. Quand il y a des marchands qui ne venaient pas assez, ils s'informaient, c'est que quelquefois c'était dû à des guerres, etc. Donc il y a ça. Donc les Asuadiens et les Amanvounans sont venus de l'Ebrosa et puis sont venus s'installer dans la région. Mais les Samo, eux, ils étaient à Tiedo. Donc, eux, ce sont des Brons. Mais il faut savoir que en fait, les Samo, ils sont venus en mission de la part du roi des Brons Diamants. Puisque le roi des Brons Diamants voulait exercer son autorité sur cette zone-là. Et donc, il a envoyé les Samo un peu comme des éclaireurs. Il faut savoir aussi que quand ces agnis-là, les Amamvuna, les Asuadier, etc., sont venus, et puis les Abradés, mais les Abradés vont venir un peu plus tard. Parce que les Abradés, c'est quand le roi de Sahi leur a fait la guerre autour de 1725 qu'eux, ils sont venus. Mais ils ont été précédés par les Asuadier et les Amamvuna. Mais eux aussi, ils étaient dans les Broussa. Et quand ils arrivent, qu'est-ce qu'ils décident? Ils disent qu'ils ne voudraient pas que l'un des peuples cherche à s'imposer aux autres. Ils doivent créer des chefferies qui sont indépendantes les unes des autres. Et c'est comme ça qu'ils se sont rassemblés à Brandré, qui est une sorte de colline. Bon, ils appellent ça montagne, mais en fait, c'est pas à proprement parler d'une montagne. Et puis, c'est là qu'ils ont fait un serment.
Vous parlez de la montagne Brandré.
Brandré.
Qui domine la ville de Kounfao.
Voilà. Et c'est là qu'ils ont fait une sorte de, je peux dire, de conclave. Ils ont appelé Manhia. Manhia, c'est un mot qui veut dire rassemblement des peuples. Et ils ont décidé qu'ils ne doivent pas chercher à exercer une domination les uns sur les autres, mais que les différentes chefferies doivent être autonomes les unes des autres. C'est ça l'accord de Manhia, l'alliance de Manhia. Maintenant, leur nom Bona, et ils se trompent sur le sens du nom Bona. Je ne dis pas ça par vanité, mais je vais leur expliquer. Et ils ont pensé que Bona, ça vient d'un serpent. Il y a un serpent que les Akans appellent Bona, qui a des cornes. Ce serpent a des cornes. Mais ça ne vient pas de là. Le nom Bona, c'est une rivière qu'on trouve en Adansé. La zone de l'Adansé est au sud de la Chantilly actuelle, mais par la suite va être intégrée à la Chantilly. Par exemple, une ville de l'Adansé qui est très connue, c'est Oboissé. C'est là qu'il y avait un génie qu'on appelle Bona. Ce génie était très très important. Beaucoup de chefs Akan prenaient un peu de l'eau de la rivière de Bona pour faire des rituels. Et dans la danse à cause de ça, les villages étaient autonomes les uns des autres. Parce qu'ils ne voulaient pas que la volonté, je peux dire, de dominer crée des guerres. Donc c'est autour du Bona qu'on jurait dans la danse que chaque village devait être indépendant les uns des autres. Et c'est par rapport à cet esprit-là qu'ils ont juré d'être autonomes les uns les autres, comme cela se passait avec des ancêtres en Adansé. D'ailleurs, en Adansé, il y avait un autre esprit qui était serviteur du Bona qu'on appelle Sasabonsam. Lui, il était très friand de sang humain. C'est pour ça que les Akans ont appelé le diable Sasabonsam quand les Blancs sont venus leur parler du diable. Voilà, donc c'est comme ça. C'est un esprit qui était l'esprit tutélaire de l'Adansé. Voilà, et qui, on peut dire, aidait un peu à ce qu'il y ait la paix en Adansé, parce que aucun village ne cherche à dominer un autre, aucun groupe ne cherche à dominer un autre. Et c'est par rapport à ça qu'ils se sont rassemblés à Mahia pour décider que les Amamvuna, ils ont leurs chefferies, ils sont autonomes. Les Asuadier, ils ont leurs chefferies, ils sont autonomes. Les Abradé, ils ont leurs chefferies, ils sont autonomes, etc. Donc ça vient de là. Mais malheureusement pour eux, le roi des Brondjama, lui, il avait des ambitions de domination. Et ces espions de Samo ont fait le travail. Voilà, ils ont fait bien le travail. Mais les autres là se sont mis ensemble pour se défendre. Voilà, ils se sont mis ensemble pour se défendre. Les Abradé, les Amamvuna, les Asuadier. Mais ils ont été vaincus par le roi des Brondjama. Et quand les Dengasso sont venus, les Dengasso, eux, ils étaient dans le Wassa. Ils étaient dans une localité qu'on appelle Asankra Brahmaï. Mais par la suite, quand il a commencé à avoir du commerce, un commerce important à Asankra Brahmaï, le village va être appelé Asankra Goua. Même moi-même, je suis passé par ce village-là quand je partais à Takwa. Donc c'est comme ça que les Dengasso sont venus.
Les Dengasso sont les derniers.
Ouais, ils sont pratiquement les derniers à venir. Mais que va faire le roi de Brondjama? Le roi de Brondjama dit aux Agni Bona, si vous voulez vous adresser à moi, vous devez passer par le chef de Dengasso. Vous ne pouvez pas vous adresser à moi directement. Non. Vous devez passer par le chef de Dengasso. C'est-à-dire qu'il est tellement malin. Celui qui est arrivé en dernier lieu là, c'est celui-là qu'il met comme intermédiaire entre lui et puis les Agni Bona. Donc, si bien que dans l'organisation, les Agni Bona faisaient partie des unités militaires qui combattaient pour le roi de Brondjama. Mais quand le roi de Brondjama leur a fait la guerre pour les soumettre, il a constaté que ce sont des gens qui étaient des guerriers assez résistants. Voilà, il les a appelés Kassiesse. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact.
Kassiesse.
Voilà. En langue Kulango, en langue courant, pour dire que vraiment ces amis-là, c'est vraiment des combattants. Ils ont résisté durement avant d'être soumis. Donc voilà un peu l'histoire des amis Bona.
Et pour préciser, je dis Tiedjo, c'est aussi le siège de la royauté en Gobia.
C'est ça.
Voilà, la Roya en Gobia, qui a son pouvoir qui s'étend jusqu'à sur le pays Bona.
Voilà, mais les Angobia, c'est une unité guerrière. Angobia, en fait, ça vient de l'expression en langue cuit, Wonkobebia. Ça dit que tu ne vas nulle part. Ce sont ceux qui, disons, protègent le domaine royal. Ils protègent le domaine royal pour ne pas que le domaine royal soit attaqué. Voilà, c'est un peu ça. C'est de là que vient l'expression Angobia.
Vous avez parlé des Agnipona, vous avez parlé de ces différents groupes qui ont décidé d'être autonomes. Et vous n'avez pas insisté sur le Waté. Sur le Waté.
Oui, c'est parce qu'en fait, ceux de Waté, ils sont parmi les premiers habitants du pays. Ils sont parmi les premiers habitants du pays. Il faut savoir cela. Mais en fait, comme je l'ai dit, certains ont voulu alors les rattacher au Koulango parce que dans l'espace Bron, les Koulango y étaient. Bon, les Koulango y étaient. Il y avait des zones aussi où il y avait les Gbé et puis les Sounoufo Nafana. Mais en fait, nous les historiens, pour nous les indices sont très importants. Ça nous éclaire. Le fait que ceux de Waté, le feu est important dans la célébration de la fête qui marque l'année nouvelle, puisqu'ils célèbrent cette fête qui marque l'année nouvelle, qu'on appelle ordinairement la fête des Yams, c'est qu'ils sont d'extraction à Caen, en fait. Ils sont d'extraction à Caen. Et donc, c'est ce qui me fait dire qu'ils font partie de groupes anciens des Akans qui étaient un peu disséminés, ceux qui avaient pendant un moment vécu dans les grottes avant d'en sortir. Beaucoup ont vécu dans des grottes, hein, les Akans là. Les ancêtres, beaucoup ont vécu dans des grottes. Par exemple, les Abiana, ils étaient dans une grotte qu'ils appellent Atumkurase. Voilà. Les Oyoko, ils étaient dans la grotte qu'on appelle Amououi. Donc, c'est comme ça. Je pense que c'est le cas de ceux de Waté.
Ces lieux d'habitat à l'époque, vous avez parlé de grottes.
Oui.
Voilà, est-ce que vous pouvez vous étendre un peu là-dessus?
Oui, mais en fait, cela veut dire que ces populations sont là depuis des périodes préhistoriques. Ce que, bon, ordinairement, on a appelé la pierre taillée, la pierre polie. Bon, en fait, la pierre taillée, c'est le paléolithique. Paléolithique, ça veut dire pierre ancienne. Et puis néolithique, pierre nouvelle. Mais c'est aussi pendant le néolithique qu'on peut dire que réellement la civilisation se met en marche. Pourquoi? Parce que c'est pendant cette période-là que les gens vont commencer à pratiquer l'agriculture. Parce que dans le paléolithique, les gens ne pratiquaient pas l'agriculture, ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc ils courent après les animaux. Mais quand ils ont commencé au néolithique à pratiquer l'agriculture, l'agriculture fait que vous êtes obligé d'être sédentaire. Parce qu'il faut rester là pour suivre l'évolution de ce que vous avez planté. Donc c'est ce qui fait que c'est l'agriculture qui a fait que bon, les villages sont nés, les villes sont nées. C'est de là que ça vient. C'est une cause, ça vient de la sédentarisation. Le fait que les gens restent sur place pour veiller sur ce qu'ils ont planté. Voilà. Donc ceux de Waté, ils font partie de ces populations anciennes-là. D'ailleurs, chez les Akans en général, il est dit que le clan le plus ancien qui a quitté le lieu de la création, c'est le clan qui a pour symbole le chien et le feu. Parce que ça correspond à la période du paléolithique. Ceux-là, c'est eux qui ont apprivoisé le loup. Le chien que vous voyez là, c'est un loup, hein. C'est un loup qui est devenu chien et puis vous vous amusez avec lui, mais il est très dangereux en fait. Le chien, c'est un loup qui a été apprivoisé par les hommes. Et puis maintenant, le feu, c'était important pour se protéger des animaux féroces et tout, et puis pouvoir cuire la viande. Voilà, donc c'est ce clan premier-là. D'ailleurs, ce qui fait qu'il y a une trame, je peux dire, de l'histoire chez les Akans qui retrace ça. Mais ils disent que tout être humain appartient à un matriclan. Ce clan ancien-là, comme on le voit chez les Waté, comme je l'ai dit, c'est ce que les Bron et les Ashanti appellent Aduana Abrat. Aduana, Adua, c'est le chien. Aduana, ça dit la famille du chien. D'ailleurs, chez les Hébreux, les Chamans, ils disent Badouma. Ça dit la famille du chien. Ba, c'est le chien. Vous voyez? Voilà. Les Ma disent Ndjoafo. Vous voyez? De Montoua. Voilà. Les Aïe disent Ashua. C'est le même groupe. Ceux de Waté, ils appartiennent à ces groupes anciens, qui souvent, dont les ancêtres ont vécu dans les grottes, etc. Et qui étaient là et qui ont précédé tous ceux qui sont venus par la suite. Quelquefois, il arrive que dans l'histoire des peuples, ceux qui ont été les premiers qui ont précédé, ils veulent se servir de ça pour exercer une autorité. Mais ça ne marche pas toujours. Ce qui se passe en général, c'est que ceux qui sont anciens, comme ils ont été les premiers à être en contact avec les esprits de la nature, de la zone, souvent c'est eux qui font les rituels, hein, sur les esprits, parce qu'ils ont été les premiers à être en contact avec les esprits de la zone. Voilà, c'est comme ça.
Professeur, j'ai allé une fois à Dokanou.
Ouais, Dokanou,
oui. Où se trouve le siège de la royauté d'Engassou.
Ouais.
Aujourd'hui, est-ce que Dengassou peut se retirer parce qu'ils sont un peu venus en retard? Oui. Est-ce qu'ils peuvent se considérer comme un peuple bona, mais à part ces groupes que vous avez cités?
Non, ils ne peuvent pas se considérer à part. La place qu'on leur a donnée, c'est le roi des Bron Djaman qui leur a donné ça. Maintenant, la localité de Dokanou, ça veut dire quoi? Ça veut dire dans les palmiers Rafia. c'est ce que ton nom veut dire. Les Agni Djouablins, d'Agni Blekourou là, les Djouablins d'Agni Blekourou, quand ils sont venus autour de 1750 et qu'ils sont venus aider les Bronjama à vaincre les courants de Bouna, les Koulango de Bouna, au retour, ils ont séjourné à Dokanou. D'ailleurs, ils ont eu une de leurs aïeules qu'on appelle Nana Tchindjoua. Nana Tchindjoua a planté des palmiers rafia dans la zone. C'est ce qui fait que même jusqu'à aujourd'hui, quand un Agni Djouablin va dans le pays Agni Bona, si les gens sont en train de boire du vin de palmier rafia, pour lui, il a le droit de prendre ça, de boire et puis il ne paye pas. Parce que son aïeul Nana Tchindjoua a planté du palmier rafia en pays Agni Bona, notamment dans la zone de Dokanou. Donc, en fait, Dokanou, ce n'est pas un site que les Dengasso sont venus trouver qui n'avait pas été habité. Non, c'est un site qui avait été habité, mais les Agni Djouablins ont quitté la zone et ils sont allés beaucoup plus au sud.
Disons que pour nous résumer, je crois, est-ce qu'on peut dire que les Agni Bona sont toujours sur le plan traditionnel sous la protection du chef de Tchédjo de Angobia?
Mais bien sûr, d'ailleurs, le chef de Tchédjo et d'Angobia, eux-mêmes, ils sont des chefs au service de qui? Du Djamahene, du roi du Bronjama. Vous voyez? Donc, cela veut dire quoi? Si eux-mêmes, ils dépendaient d'une sous-chefferie qui dépendait du roi de Bronjama, ils ne peuvent pas s'élever maintenant pour dire que non. Parce que cette affaire-là, ça crée des susceptibilités, ça crée quelquefois même la violence verbale, etc. Mais l'histoire est là pour dire la vérité. L'histoire-là, elle est là pour dire la vérité. Si l'historien se trompe, c'est qu'il s'est trompé honnêtement. Mais l'histoire est là pour dire la vérité. Comme je le dit là. Et il dépendait du roi Bronjama. Le roi Bronjama est leur suzerain. Mais la gestion des royaumes et des chefferies chez les Akans était une gestion autonome. Il y a le roi principal, il y a des chefferies qui sont importantes et il y a d'autres chefferies qui sont moins importantes, qui dépendent de ces chefferies importantes, qui elles-mêmes dépendent maintenant du roi qui est au sommet de la pyramide. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, s'ils se lèvent maintenant, ils disent qu'eux aussi ils créent leur royaume. Non. Ils ont des chefferies qui dépendaient du roi de Bronjama. Voilà.
Vous avez dit le mot, s'ils veulent créer leur royaume, et si cette intention les habitait un jour, et ils ont l'intention de créer un royaume, est-ce que c'est possible?
Dans la République de Côte d'Ivoire, là. Mais moi, je leur pose la question, dans la République de Côte d'Ivoire, là. Mais écoutez, moi, mes parents, Agni sans vie, ils ont voulu le faire même au début de l'indépendance. Ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas maintenant où nous sommes en République depuis 64 ans que vous allez dire que vous allez créer un royaume, etc. Bon, en fait, je pense que c'est... C'est qu'un veut montrer qu'il est important pour dire qu'il est un royaume, mais qu'est-ce que ça fait si tu reconnais qu'au plan historique, tes ancêtres-là dépendaient d'un autre roi? Ça ne fait rien. Ça dépend de l'importance que tu donnes à ta chefferie. C'est comme ça que ta chefferie va être importante. C'est comme ça. Donc les gens, ils n'ont qu'à laisser ce côté-là où on veut se valoriser, mais où ça crée des problèmes. Et puis, ça crée une rupture avec les faits historiques tels que les faits se sont déroulés. Je vous disais comme ça que le royaume Agni Djouablin, les Djouablins, ils dépendaient du roi Bronjama. C'est sur les terres du roi Bronjama qui se sont installés. D'ailleurs, au début, ils ne voulaient pas. Ils disent qu'ils vont retourner à Dadiesso. C'est quand ils ont trouvé de l'or à Sikasso que finalement, ils sont restés. Ils sont allés informer le roi Bronjama que ben, Nana, nous, on veut rester. Mais lui, on n'a pas dit que c'est parce qu'on a découvert de l'or là. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Voilà. Donc c'est un peu ça.
Professeur, vous avez répondu à une question très 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 délicate. Tout à l'heure, vous avez répondu à cette question-là. Parce que les peuples ont le droit de manifester, de chercher à devenir quelque chose dont ils n'ont pas droit. Et il peut arriver que au niveau de la chefferie des populations Agni Bona, qu'on ait l'idée de se détacher du royaume Bron. Je crois que, en tant qu'auditeur, auditrice qui écoutons cette émission, nous sommes un peu satisfaits.
Mais je dis, s'ils veulent le faire, ils vont faire quoi? Les Assuadiens vont dominer tous les autres? Les Amamburins vont dominer tous les autres? Les Samo vont dominer tous les autres? Ceux de Waté vont dominer tous les autres? Les Dengasso vont dominer tous les autres? Mais et le serment que les ancêtres ont fait à Mahia? Alors, le serment qu'ils ont fait à Mahia là, ils oublient ça. Dans ce cas-là, il faut qu'ils retirent d'abord le serment qu'ils ont fait, parce que nos ancêtres ne faisaient pas des serments à la légère. Souvent, ces serments-là étaient suivis de sacrifices. Quelquefois même, ça pouvait aller jusqu'à des sacrifices humains pour que chacun tienne parole. Voilà. Tu donnes un de tes parents, moi aussi, je donne un de mes parents, puis l'alliance qu'on fait, ce qu'on jure là, c'est sérieux. Parce qu'il y a du sang humain qui a coulé. Voilà. Mais s'ils veulent revenir sur ça, donc ils n'ont qu'à aller d'abord dénouer le rituel qu'ils ont fait à Mahia là, et puis maintenant ils vont faire ce qu'ils veulent faire là. Voilà, comme ça ils seront vrais avec les faits.
Il faudrait aussi qu'ils s'informent davantage, comprendre ce que ça signifie à Mahia, qu'est-ce qui s'était passé à Mahia. Et puis, comme vous l'avez si bien expliqué, il ne faut pas tromper l'esprit des ancêtres.
Oui.
Professeur, on est presque à la fin de cet entretien. Et quel personnage a marqué l'histoire de ce peuple?
Vous savez, Kun Abronso a été créé par les Samo. Souvent, ils ne comprennent pas ce que Kun veut dire. Il y a Kun Abronso, Kun Fao, Kun Aouzi. Ils n'expliquent pas eux-mêmes. Ça vient de Kun, c'est-à-dire le fait de se battre. Kun Abronso, ça veut dire que les Samo disent qu'ils vont se battre pour les Brons. Bronso, ça veut dire sûr. Ils vont se battre pour l'espace Bron. C'est ce que les Samo disent. C'est ce qui explique Kun Abronso. Maintenant, Kun Fao, c'est quoi? Parce qu'il y a des termes qui sont en langue cuit, c'est-à-dire ce qu'on appelle ordinairement ici la langue enchantie. Donc, en fait, la langue enchantie est une variante, c'est la langue cuit. C'est Faron, on Faron. Kun Fao, c'est Kun Faron. Kun Faron, c'est-à-dire que Faron, ça veut dire que ça n'a pas d'importance. C'est un mot cuit qui veut dire que ça n'a pas d'importance. Quand on dit on Faron, ça n'a aucune importance. Voilà. Kun Faron. Donc, ils veulent dire que se battre-là, ça n'a aucune importance. Tu as vu? C'est peut-être pour dire au Bron, voilà, vous nous avez dominés, hein. Mais se battre là, ça n'a aucune importance. Voilà, ça n'a aucune importance. C'est ce qu'il disait, en fait, au Bron, qui les dominait. Kun Faron, se battre là n'a aucune importance. Maintenant, il y a Kun Aouzi. Aouzi, c'est le fait de se laver, de se nettoyer. De se battre pour se nettoyer, pour se purifier. Ça, c'est un peu le côté spirituel. Donc, souvent, un simple mot d'un village, il y a toute une explication historique qui concerne ce mot-là. C'est le cas de Kun Abronso, Kun Fao, Kun Aouzi. Voilà, c'est un peu ça.
Mais longtemps, moi, j'ai pensé que Kun Fao, c'est parce qu'il y avait le commerce des Européens à l'époque. Il y avait cette boutique qu'on a tous connue, la Fao.
Mais est-ce que le village n'existait pas avant que la Fao vienne? Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ils vont dire que non, c'est la compagnie commerciale FAO. Donc, c'est ce qui a fait que ça a donné Kun Fao. Mais Kun, lui, il fait quoi à côté? Il n'avait qu'à dire Fao seulement. Cela veut dire que ça n'a rien à voir avec la compagnie commerciale. Kun, c'est le fait de se battre. Voilà, c'est comme ça. Fahon, on Fahon, ça n'a pas d'importance. Mais en français, on a écrit Fao. Voilà, c'est tout. Sinon, c'est pas l'explication réelle. La localité existait bien avant que la société commerciale française ne vienne. Sans doute, la société commerciale française peut-être s'est installée autour de 1940. Voilà, ou bien 1930, alors que la localité existait bien et bien avant.
Professeur, est-ce que vous pouvez nous affirmer concernant ce village qu'on appelle Kotongwanda?
Ouais, Kotongwanda.
Kotongwanda, est-ce que ce village est différent des autres groupes?
J'ai oublié de parler de ceux de Kotongwanda, qui sont aussi des amis Bona. Mais ceux de Kotongwanda, leur histoire est particulière. Ils sont partis de l'Akwapem. Ils sont partis de Aoukou. Leur village s'appelle Aoukou. Au Ghana actuel, dans l'Akwapem. D'ailleurs, c'est le village d'origine du grand Okomfo Anoche. Voilà.
Ce grand féticheur.
Voilà, ce grand, je peux dire, médium traditionnel, ce grand prêtre traditionnel,
ah ouais,
qui était, disons, le premier conseiller du roi Osei Tutu, le premier roi de la confédération Ashanti. C'est de là que les ancêtres sont partis. Et ils disent qu'il y a eu un cas particulier, mais en fait, ceux d'Aoukou, ils sont des peuples Gouans. On les appelle les Gouans. Les Gouans sont très proches des Akans, mais ils ont des particularités. On les appelle les Gouans. C'est l'historiographie ghanéenne qui en parle, mais en Côte d'Ivoire, ici, on n'en parle pas. Mais sinon, il y a beaucoup de peuples Akan-Lagunais qui sont des groupes Gouans. Donc, eux, c'est une de leurs reines qui est décédée, donc dans la succession, l'une de ses filles n'a pas été contente que le choix se soit porté sur une autre. Et elle a décidé de quitter Aoukou. Parce que Aoukou, en fait, c'était Aoukou. Mais quand c'est devenu un marché important, ils ont appelé ça Aoukou-Goua. Sinon, c'est Aoukou. C'est le village d'origine même de Komfo Anoche. Et donc, ils le disent bien. Dans leurs déplacements, ils ont parlé beaucoup de langues. Sans doute, Aoukou, ils parlaient la langue Gouan, mais aussi peut-être ils parlaient le Cui. Parce que c'était un Akwamou anciennement. Voilà. Et puis, quand ils se sont déplacés, ils sont passés par le pays Fanti. Donc, ils ont parlé Fanti. Voilà. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à Kotongwanda. Kotongwanda, c'est le lieu du carrefour du Porc-Épic. En fait, ils devaient dire Kotongwanda, mais ce serait trop long, ils ont dit Kotongwanda. Voilà, c'est le carrefour du Porc-Épic. C'est là qu'ils se sont installés. C'est là que Nana Afroumou et puis son mari qui l'a aidé dans tous ces déplacements-là se sont installés. Donc, eux, ils sont originaires d'Aoukou, qui est un village qui se trouve encore aujourd'hui en Akwapem. Parce que quand le grand royaume Akwamu s'est écroulé, sur ses cendres est né le royaume Akwapem. Donc aujourd'hui, le village de Aoukou existe encore en Akwapem.
Je vous avais écouté en son temps et vous n'aviez pas dit que ce village dépendait du roi Ahinifié.
Oui, bon, mais comme je parlais seulement du groupe Agni Bona, je n'ai pas parlé de leurs relations et de leur contribution à l'organisation et à la défense du Rhum Brondjama. Sinon, effectivement, chacun d'eux était placé sous des unités particulières. C'est comme ça, chacun était placé sous des unités particulières.
C'est par ces explications que nous allons arrêter l'émission du jour. Professeur Alou Kwame René, je vous remercie infiniment. Vos portes nous sont ouvertes. À bientôt.
Histoire d'ici, la Côte d'Ivoire, racontée par ceux qui la vivent. Historique, contes, légendes, des origines à nos jours. Présentation, Jules Kofi Ebois. Diffusion, tous les lundis à 15h10, rediffusée les jeudis à 9h10. Histoire d'ici, voyage au cœur de la Côte d'Ivoire profonde.